BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette deuxième journée du côté de Vivatech et vous venez de commencer à l'écouter en direct sur BFM Business. Elon Musk qui a parlé de beaucoup de choses, de Neuralink et qui a de nouveau envoyé un taquet à son concurrent OpenAI. On va réécouter Elon Musk bien sûr et puis on en parlera avec Edith Chevrillon et ses invités dans une dizaine de minutes. Plus soirée exceptionnelle évidemment, encore une fois Tech & Co à partir de 20h avec François Sorel sur place et toutes ses équipes. Sinon on vous racontera comment le FMI a taclé la France aujourd'hui. En gros, la France nous promet qu'elle va vraiment réduire ses déficits d'ici 2027, mais pour l'instant, on n'y croit pas, dit le FMI. On verra ça avec Thomas Asportas. Et puis demain, vendredi, c'est l'Assemblée Générale des actionnaires de Total Energy avec cette polémique, vous savez, sur le futur lieu de cotation de Total, Paris ou New York. Ouais, sauf qu'on a l'impression que Total est en train d'essayer de calmer le jeu à quelques heures de cette fameuse AG. Voilà nos gros sujets de bavardage ce soir. Et puis on parlera de ces Français qui sont de moins en moins nombreux à payer l'impôt sur le revenu, donc qui en payent plus, évidemment. On verra ça avec nos experts, bien sûr. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc beaucoup de choses à voir dans l'actualité ce soir. On va commencer par ce qui sera le gros rendez-vous de demain, l'Assemblée Générale de Total Energy. Ça sera à Paris, bien sûr. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Il y a un sujet qui est dans toutes les têtes, c'est celui de savoir si Total pourrait déplacer sa cotation principale de Paris à New York. On en a beaucoup parlé depuis de Chose France. Sauf qu'apparemment, vous nous dites que Total semble avoir l'intention de calmer le jeu dans cette histoire, Mathieu.
Hein, oui, exactement. À l'Assemblée Générale qui se tiendra demain, effectivement, le PDG Patrick Pouyanné va un petit peu calmer le jeu avec ses actionnaires qui, eux, ne sont pas furieux de ça, au contraire, peut-être. Mais en tout cas, avec le gouvernement qui était monté au créneau il y a une quinzaine de jours par la voix de Bruno Le Maire, puis Emmanuel Macron, qui, dans une interview à l'Express, a un petit peu tapé du poing sur la table en disant que Total était un groupe français et qu'il était quand même bien content d'être un groupe français, notamment pour bénéficier du soutien d'État sur certains marchés à l'export. Et donc, Patrick Pouyanné va calmer cette polémique. Comment l'étude d'une cotation à Wall Street est toujours à l'étude et sera vraisemblablement mise en place. Parce que Total veut que les investisseurs américains puissent acheter de véritables actions Total. Aujourd'hui, ils ne peuvent acheter que des certificats de dépôt qui sont du papier qui ne donne pas droit, notamment de voter en Assemblée Générale. Mais la question véritablement polémique, c'était la question de faire de New York la principale place de cotation boursière de Total, ce qui aurait conduit évidemment à ce que le PDG Patrick Pouyanné passe beaucoup plus de temps à New York, que le comité peut-être exécutif de Total déménage à moyen terme. Bref, en tout cas, qui posait un véritable problème de déménagement des pouvoirs de la direction de Total. Ce sujet-là, c'est celui-là qui est en train d'être enterré. La décision sera formellement prise au mois de septembre. On voit bien que d'ores et déjà aujourd'hui, on essaie de le calmer le jeu et qu'il y a très peu de chances que Total, en tout cas, déplace sa principale cotation boursière de Paris, qui est à Paris aujourd'hui, vers New York. Bon. Mais il y aura très vraisemblablement une double cotation, comme beaucoup d'autres groupes français l'ont fait par le passé. Je pense notamment au Vivendi, entre guillemets, des grandes années, sous l'époque Jean-Marie Messier ou de Veolia.
Bon, l'incident est donc en partie clos, on va dire ça comme ça.
Il est en train de se clore.
Il y aura sans doute une mise à jour demain, une mise à jour sur ce sujet de la part de Patrick Pouyanné. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Elon Musk, donc, on va l'écouter. C'était il y a quelques minutes du côté de Vivatech. Il a parlé intelligence artificielle. Il n'a pas pu s'empêcher d'envoyer un tacle à tous ses concurrents en matière d'IA. Écoutez Elon Musk.
Il y a donc j'ai beaucoup de respect pour les grands programmes de AI, mais les deux plus grands sont OpenAI et Gemini. Donc ce qui me préoccupe pour l'instant, même si ça peut paraître futile, mais en fait je crois que c'est vraiment un gros problème, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément la vérité. On leur apprend en fait à être politiquement correct. Et pour vous donner un exemple, quand Google Gemini a été lancé, l'une des questions que les gens posaient, c'était qu'est-ce qui est pire, c'est une guerre nucléaire ou alors se tromper de gens sur Kathleen Jenner? Et la réponse était le genre de Kathleen Jenner. Et même elle-même a répondu en disant que se tromper de ce pronom pour elle, c'était moins pire que la guerre nucléaire. Donc vous voyez,
Voilà Elon Musk interrogé par Maurice Lévy, c'était il y a quelques minutes sur BFM Business. Et puis je vous rappelle, vous pouvez continuer à suivre bien sûr l'intervention d'Elon Musk sur notre site internet bfmbusiness.com. On y reviendra bien sûr avec les invités d'Adi Chevrillon dans 5 minutes. Et puis je vous le disais, soirée spéciale encore Tech & Co en direct de la Porte de Versailles de 20h à 21h30 sur BFM Business. 18h04, en attendant, nous avons le Fonds Monétaire International, je vous disais, qui nous a dit ce matin qui prenait avec beaucoup de pincettes nos promesses sur le rétablissement de nos finances publiques. Bonsoir Thomas Asportas. En gros, le FMI dit, à moins que vous faisiez vraiment les économies prévues, nous, on n'a pas les mêmes chiffres concernant la France. C'est ça Thomas, en fait.
Oui, un gros décalage entre les prévisions du gouvernement et celles du FMI. Le fonds table sur 5,3% de déficit cette année, comme la Commission européenne la semaine dernière, alors que le gouvernement table sur 5,1. Mais surtout, le FMI prévoit pour l'instant 4,5% de déficit en 2027 contre 2,9% pour le gouvernement. Et c'est ça le gros problème, bien sûr, puisque vous savez que tout le plan de rétablissement des comptes publics, c'est de revenir sous les 3% en 2027. Alors, qu'est-ce qui explique ce très gros écart entre le FMI et le gouvernement? C'est le fait que le fonds ne prend pas en compte pour l'instant les dernières économies annoncées par le gouvernement, les 10 milliards d'euros en avril et les 20 milliards d'euros pour 2025, parce que ces économies aujourd'hui ne sont pas documentées. Pour l'instant, ce ne sont que des chiffres. Et tant que ces économies ne sont pas clairement précisées, le FMI n'en tient pas compte. Il fait exactement là aussi comme la Commission européenne la semaine dernière. Il attend de voir le détail concret de ces économies avant de les intégrer à ses prévisions. Et il attend de voir, parce que le gouvernement n'a jamais réalisé autant d'économies depuis 2017, le fonds parle de 3 points de PIB d'économies, c'est-à-dire autour de 85 milliards d'euros à trouver entre 2025 et 2027 pour redescendre sous les 3% à la fin du quinquennat. Et donc, vu l'ampleur de la tâche, le FMI attend de voir le gouvernement à l'œuvre avant de valider son plan de rétablissement des comptes publics. Bruno Le Maire a vivement réagi dans la foulée de la publication des travaux du FMI et a répété à deux reprises qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027. Ça sonne un peu comme le « whatever it takes » de Bruno Le Maire sur le rétablissement des comptes publics.
Bon, il va falloir détailler tout ça. C'est ça le maître mot finalement de ce que nous dit le FMI aujourd'hui.
Voilà, le FMI ne croit que ce qu'il voit. Pour l'instant, il ne voit que des chiffres. Il attend de voir des précisions.
Et comme ça, Thomas, si vous me permettez, il fallait que je la fasse. Merci beaucoup, Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Sinon, l'examen de la réforme de l'audiovisuel public qui devait commencer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, cet examen a été repoussé au mois de juin. Un rapport qui intervient alors que le secteur, vous savez, est en grève précisément aujourd'hui, jeudi, pour s'opposer à cette fameuse réforme. Et puis, on va partir aux États-Unis où la justice, cette officielle, va demander le démantèlement de Live Nation. Vous savez, le propriétaire du célèbre et incontournable Ticketmaster. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Qu'est-ce qui est reproché exactement à Live Nation, Antoine?
Eh bien, la justice reproche à Live Nation d'être en situation de monopole. C'est vrai que le groupe domine toute la chaîne de production des concerts. À la fois, il organise des tournées et fait la promotion de très nombreux artistes, plus de 400 artistes sous contrat, mais en même temps, il vend les billets pour ses spectacles via Ticketmaster, un mastodonte qui contrôle 80% du marché de la billetterie aux États-Unis. Et enfin, Live Nation possède ses propres salles de spectacle. 60% des plus grandes scènes américaines sont gérées par le groupe. Tout cela, selon le ministère de la Justice, permet à Live Nation de tuer toute forme de concurrence et d'imposer des prix toujours plus exorbitants. Aujourd'hui, il faut compter plusieurs milliers de dollars pour aller voir Taylor Swift ou Bruce Springsteen en concert aux États-Unis. Ticketmaster, par ailleurs, est épinglé pour les frais cachés qui s'additionnent systématiquement au prix du billet, qui contribuent donc à faire flamber les tarifs. Le ministre de la Justice, qui a fait un point presse tout à l'heure, dit qu'il est temps de casser ce monopole et de mettre fin à ces pratiques illégal. Concrètement, si la procédure aboutit, Live Nation pourrait être contraint de se séparer de Ticketmaster, un démantèlement qui rebattrait totalement les cartes du spectacle vivant aux États-Unis et par ailleurs dans le monde.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc en direct de Washington pour BFM Business. 18h08. On va sur les marchés tout de suite. Retrouver Étienne Brack depuis Euronext à la Défense comme tous les soirs. Bonsoir Étienne, on a terminé dans le vert un petit peu de justesse ce soir. Bonsoir. À la Bourse de Paris.
En effet, de justesse, du vert après deux séances dans le rouge, un CAC 40 qui de peu clôture au-delà des 8100 points, 8102 points ce soir au fixing, avec une tendance qui s'est quand même bien calmée en milieu d'après-midi après des données qui ont montré que l'économie américaine est toujours très solide, que ce soit dans le secteur des services mais aussi dans le secteur manufacturier, ce qui va un petit peu dans le sens des minutes de la Fed hier avec des membres qui n'écartent pas de voir remonter les taux cette année. En tout cas, ils font passer le message que les taux resteront plus élevés plus longtemps. Donc forcément, le marché action ça. Juste du côté de Wall Street, vous avez Dow Jones qui perd 0,7%, avec Boeing qui perd plus de 6%. Le groupe qui s'attend à être à nouveau en perte pour le trimestre actuel. L'action forcément dégringole aujourd'hui. C'est la plus forte baisse de l'indice Dow Jones, quand le Nasdaq de son côté prend 0,7%, avec Nvidia forcément qui est aujourd'hui la grande star du jour après ses résultats hier soir, avec un profit juste exceptionnel, des résultats au-dessus des attentes, une croissance de plus de 10% encore par rapport au trimestre précédent, et l'action qui est au-delà des 1 000 $ pour la première fois. D'ailleurs, le titre va être divisé par 10 afin de le rendre plus accessible aux petits porteurs. Le CAC 40 donc en légère hausse ce soir, plus 0,1% au fixing à 8102 points.
Merci beaucoup, merci Étienne. Étienne Braque depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. 18h09, Elon Musk qui vient de parler, Vivatech qui se poursuit. Edwige Chevrillon en parle dans la grande interview avec ses invités, Florent Douéto, le cofondateur et PDG de Dataiku, et Julie Ranty, l'ancienne directrice générale de Vivatech et cofondatrice de Pollen. La grande interview dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler évidemment d'intelligence artificielle, on va parler d'Elon Musk. Deux invités avec moi ce soir, mais surtout on est déjà en studio avec nous. Florian Douéto, qui est le cofondateur et PDG de Dataiku. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes la licorne de l'intelligence française. En tous les cas, c'est comme ça qu'on vous présente. Vous avez 1000 salariés, vous êtes ce qui est rare pour une entreprise française, surtout dans l'IA. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes un peu partout dans le monde. Vous travaillez pour toutes les grandes entreprises françaises. Et puis ensuite, ça sera Julie Ranty, qui est donc la cofondatrice de Pollen. Elle était l'ex-directeur général de Vivatech. Je crois que vous la connaissez, comme ça sera l'occasion de faire un focus sur Vivatech. Visiblement, on a l'impression que c'est surtout les start-up qui sont venues en milliers pour trouver des financements. Florian Douéto, d'abord un commentaire. Je ne sais pas si vous avez entendu le tacle d'Elon Musk à OpenAI en disant, en fait, ce qu'il développe, grosso modo, c'est une intelligence artificielle qui développe le mensonge. Qu'est-ce que vous le connaissez bien, Elon Musk ?
Je pense que Elon Musk, il part de l'idée qu'en fait, toutes les vérités sont bonnes à dire. Et je pense que les AI, en fait, elles ont encore besoin d'apprendre à communiquer. Et communiquer, parfois, c'est pas dire la vérité. C'est comprendre ce que les personnes sont prêtes à entendre, comprendre comment l'informer. Et c'est ça que je pense que c'est ça qu'Elon Musk mentionnait quand il parlait d'OpenAI et de Gemini. C'est qu'en effet, des fois, elles sont obligées de prendre des gants, de communiquer d'une certaine façon. Mais je pense qu'en fait, elles apprennent à être humaines, comme nous.
Ouais. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup développé la notion de vérité et de mensonge. Ouais, c'est drôle, quand je pense à l'intelligence artificielle, je pense pas forcément vérité et mensonge. Je fais pas de la philosophie. Vous faites de la philosophie, vous ? Vous êtes un des premiers Français à vous être intéressé à l'intelligence artificielle. Vous êtes normalien, là, vous avez fait un switch entre la philosophie et l'intelligence artificielle.
C'est vrai que j'ai commencé, quand j'étais petit, à faire un peu de philosophie et j'adorais ça. Mmh. Et en effet, quand on réfléchit à l'intelligence artificielle, on est obligé de réfléchir à ses impacts, on est obligé de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et quand on pense à l'intelligence artificielle et à sa manière de communiquer, on est obligé de réaliser qu'en fait, toutes les vérités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et du coup, je pense qu'à cause de ça, il n'y aura pas qu'une seule intelligence artificielle pour toute la planète. Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Et donc, du coup, il y aura potentiellement plusieurs intelligences artificielles qui seront plus précises, qui auront certains avis et qui correspondront finalement aux opinions un peu plus de chacun.
Mais par exemple, Mistral, Arthur Mach, que vous connaissez aussi, forcément, lui, il développe quoi ? Il développe quel mensonge ou quelle vérité ?
L'enjeu actuel n'est pas, pour les gens qui développent des intelligences artificielles, des questions de vérité ou de mensonge. Je pense que c'est pour beaucoup d'entre eux, c'est dans cet écosystème comment développer plus rapidement possible des intelligences artificielles qui sont assez performantes, qui permettent de répondre à nos problèmes de quotidien, qui vont ensuite être dans nos téléphones et qui vont aussi résoudre toutes les problématiques d'entreprise qui sont à venir pour qu'elles puissent utiliser l'intelligence artificielle.
Alors, Dataiku, vous êtes, donc je disais, vous êtes une des pionniers de l'intelligence artificielle, du moins en France. Vous êtes un peu partout dans le monde, vous avez 1000 salariés. Je trouve énorme quand même pour une... Enfin, ce n'est pas une start-up, mais enfin pour une licorne, c'est quand même énorme, 1000 salariés.
Dataiku, c'est une aventure de 10 ans. Oui. Et en effet, maintenant, on a quelques centaines de grands clients dans le monde. Oui. À peu près la moitié des entreprises du CAC 40 comme clients, plus de la moitié maintenant. Et en effet, pour ça, on a une R&D qui est basée à Paris, de quelques centaines de personnes, qui nous permet de continuer à faire évoluer notre produit.
Et votre produit, en fait, ce que vous faites, vous, c'est que vous avez un logiciel qui permet de gérer la data qui est générée par l'intelligence artificielle.
Ça permet, en fait, aux entreprises de créer leur propre intelligence artificielle, leur propre modèle, en utilisant leurs données, en utilisant la data. Parce qu'en effet, chaque entreprise a sa propre data, sa propre vérité, et chaque entreprise a besoin de créer ses propres modèles d'intelligence artificielle prédictifs, ça veut dire ceux qui permettent de prévoir un prix, prévoir le temps qu'il fait, prévoir la demande et le nombre d'objets qui seront achetés ou vendus, et les intelligences génératives qui permettent de créer du contenu ou d'interagir différemment avec les clients.
Oui. Du reste, demain, vous intervenez à Vivatech, justement, sur l'intelligence artificielle et les entreprises. Et toutes les grandes entreprises sont présentes là-bas. L'enjeu, est-ce que vous diriez que les grandes entreprises, surtout, est-ce qu'elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont suffisamment avancées sur l'intelligence artificielle?
Je pense que les grandes entreprises, en fait, ont conscience qu'il y a un besoin d'avancer maintenant. Parce que l'intelligence artificielle, c'est le sujet en fait qui va peut-être pour certaines d'entre elles déterminer si elles sont encore compétitives dans 5 ans ou 10 ans. Mm-hmm. Je pense que les grandes entreprises sont conscientes que, évidemment, adopter l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un projet de 5 ou 10 ans pour les entreprises, mais pour lequel la transformation commence maintenant. Et les dirigeants les plus courageux, c'est ceux qui sont prêts à prendre ces risques.
Oui. Est-ce que vous diriez que la France a peu compté dans l'intelligence artificielle?
Je pense que la France est un pays dans lequel il y a beaucoup de talent dans l'intelligence artificielle, mais où, en effet, maintenant, il y a un engagement du secteur public et un écosystème qui grandit, mais dans lequel, en fait, il faut pouvoir transformer ça en quelque chose dans lequel les entreprises s'engagent dans des transformations de fonds, lancent des investissements beaucoup plus conséquents, et dans lequel on a tout un écosystème de start-up qui, après s'être créé, vont aller chercher des fonds partout dans le monde et des clients partout dans le monde pour, en effet, atteindre le niveau que l'écosystème français mérite d'avoir.
Parce que vous dites que vous avez le centre de recherche qui est ici. Vous êtes donc normalien, vous aussi. Vous dites qu'on est les meilleurs ingénieurs en France. Est-ce que c'est vraiment vrai, j'ai envie de dire? Parce que vous avez commencé à New York, hein, je crois, du reste, enfin aux États-Unis, en disant que c'est important de développer ces logiciels d'abord aux États-Unis. Mais est-ce que les Français, c'est vrai qu'ils sont très bons, parce qu'on a loupé quand même, on a loupé le cloud, on a loupé l'Internet, enfin la liste est très longue de tout ce qu'on a manqué comme révolution. Là, il ne faudrait pas la manquer quand même.
Je pense que pour ne pas la manquer, il faut qu'on soit conscient qu'il ne s'agit pas juste en fait, d'annoncer le fait qu'on ne va pas la manquer et de dire qu'on est les plus forts, mais qu'en effet, qu'on fasse des choses. Et qu'en effet, dans l'écosystème français, il y a le besoin d'être plus dans l'action. Mm-hmm. Il y a, dans cet écosystème français, beaucoup de talents. En fait, on a des très bons ingénieurs, des très bons cursus de formation, et il est pour l'instant pas exploité à son potentiel plein. Mm-hmm. Quand on dit qu'on a les meilleurs ingénieurs, on veut dire plus précisément qu'on a des ingénieurs bien meilleurs et un nombre bien plus important que ce que la plupart du reste du monde croit.
Mais oui, est-ce que ça veut dire que, est-ce que c'est suffisant? Vous avez Google, hein, qui est dans votre capitale, donc c'est quand même impressionnant d'avoir Google. J'imagine c'est aussi ça qui vous booste. Hein.
Oui, on a plein de partenaires financiers.
Oui, en effet, Google, c'est pas n'importe qui.
Et dont des partenaires financiers, beaucoup de partenaires financiers américains. En effet, je pense qu'il faut être conscient que dans cet écosystème qui est globalisé, il faut aller chercher ses clients et chercher les capitaux partout. Et qu'il y a ce besoin finalement pour les entreprises françaises de comprendre qu'on a la capacité en France de construire des produits différents, d'avoir des centres de R&D très différenciés, mais qu'il faut aussi savoir aller s'exporter et se tourner finalement vers le monde.
Mais est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'on puisse... vous pouvez, avec peut-être Mistral ou d'autres, vous pouvez lutter, faire face aux Microsoft, Google ou Alphabet?
Alors, il ne s'agit pas potentiellement d'être plus gros que Microsoft demain ou après-demain, voire même dans 5 ans. Mais dans le logiciel, en fait, il y a des centaines d'entreprises de grande taille aux États-Unis. Pour l'instant, en France, il n'y en a que quelques-unes. Et en fait, l'enjeu pour l'écosystème français, c'est, dans ce domaine de la tech, de créer ces quelques dizaines d'entreprises qui seront ensuite les fleurons de demain, dont peut-être ensuite, dans 20 ans, émergera le Google ou l'Alphabet français.
Oui. À votre avis, Emmanuel Macron a annoncé 400 millions d'euros consacrés à la formation des spécialistes en IA, création d'un nouveau fonds d'investissement pour développer toujours l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est à la mesure de l'enjeu sur l'intelligence artificielle?
Pour moi, l'enjeu principal, il va être dans les entreprises. C'est pas les annonces.
C'est pas tellement le fond, vous pensez?
Je pense que l'enjeu principal, une fois que ces annonces sont faites, c'est de savoir si toutes les entreprises françaises vont assez vite en fait, dans leur investissement dans l'intelligence artificielle, dans leur transformation. Si les dirigeants prennent la mesure de cette transformation-là, parce que c'est ça qui aura un impact le plus important, finalement, sur l'économie française.
Est-ce que demain, c'est ce que vous allez dire, il y a toutes les grandes entreprises, vous parlez sur ce sujet, vous trouvez qu'elles vont... Parce que la grande difficulté, c'est l'accélération de cette intelligence artificielle, et vous trouvez que les entreprises, elles ont trouvé la solution, enfin l'organisation nécessaire ?
Je pense qu'elles n'ont pas encore trouvé toute l'organisation nécessaire, mais il faut comprendre que le changement, c'est maintenant. Il va y avoir plus de changements dans les 5 années à venir que dans les 5 années passées. Et une bonne partie de ce changement sera l'intelligence artificielle qui va changer les manières de travailler.
Oui.
Et pour les entreprises, il y a cette urgence, en fait, de prendre en main ces sujets, de oser innover, de oser investir. Beaucoup de nos clients, en fait, font ce pari. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont nos clients, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont réaliser que, et surtout parmi les grandes entreprises, que si elles ne veulent pas être dépassées par d'autres qui auront fait ces investissements avant eux, elles ont besoin de le faire dans les années qui viennent.
Est-ce que vous trouvez les fonds nécessaires, vous, Dataiku, vous, Florian Jouteau, est-ce que vous trouvez les fonds nécessaires ?
On a eu la chance, grâce à notre produit, à son rayonnement, en fait, de trouver des partenaires financiers dans les 10 dernières années qui nous ont permis, en fait, de continuer ce développement de l'entreprise et d'investir dans notre R&D de manière continue.
Oui, c'est toujours la question qu'on vous pose. Florian, c'est l'introduction en bourse. Oui, non, quand, où ?
Moi, je me focalise sur mes clients.
Oui, moi, je vous pose une question, donc vous pouvez.
Et je me focalise en effet sur mes clients. Je pense que je vois l'introduction en bourse. Je le dis ça parce que je vois l'introduction en bourse comme un moyen. C'est un moyen permettre à nos clients de mieux comprendre ce qu'on est, de créer le rayonnement autour de l'entreprise. Et en effet, de trouver encore plus de partenaires financiers, parce que si on veut créer non pas les licornes de demain, parce que la licorne, entre guillemets, c'est une commodité du point de vue de la technologie globale, mais si on veut créer les grandes entreprises qui perdurent et qui créent sur le sol français des centres de R&D qui ne sont pas en quelques centaines, mais en quelques milliers, ben, en effet, il faut passer par cette étape d'introduction.
Donc, vous allez rentrer en bourse. Maintenant, vous avez répondu à la première question. La deuxième question, c'est quand et où ? Quand vous avez déjà... Bon, quand, j'imagine que c'est un processus que vous avez commencé, que vous avez entamé. Où ? New York, Paris ?
Ben, dans notre logique, je pense que c'est les... Et dans l'état actuel des marchés, c'est les marchés américains, en fait, sont ceux qui sont les mieux positionnés pour soutenir les organisations sur le long terme.
Ouais, d'accord. Et puis, c'est une question de valorisation hein, aussi, on a bien compris. J'accueille Julie Ranty, qui était patronne de Vivatech, évidemment, aux côtés de Maurice Lévy. Bonsoir, Julie.
Bonsoir, Edwige.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes cofondatrice de Pollen. Pollen, alors vous, c'est toujours autour de l'intelligence artificielle, mais c'est un peu comment les compétences, comment ça change le travail. On parlait de l'organisation, comment ça peut changer les entreprises, comment ça va changer les entreprises. Vous regardez, c'est ça où c'est assez complémentaire, comment ça peut, ça va bousculer le future of work, comme on dit.
Pollen permet effectivement de se former aux compétences de demain, une des grandes briques étant l'intelligence artificielle, aux côtés d'autres thématiques comme des soft skills qui sont, à mesure qu'on se forme et qu'on développe l'intelligence artificielle, aussi importantes à maîtriser, notamment pour se différencier de la machine et de ces intelligences artificielles qui vont devenir un peu plus...
Est-ce que je vais travailler différent quand, si l'intelligence artificielle elle est appliquée dans mon entreprise? Même en tant que journaliste, c'est vrai que ça va changer.
Je pense que ça va bouleverser tous les métiers. Au début, des gains de productivité. On le voit, ChatGPT, Copilot, qui deviennent des assistants personnels, qui nous aident à rédiger des mails, rédiger des présentations, analyser des données. Après, il y aura une étape, je pense, plus profonde et qui, dans certains secteurs, bouleverse vraiment les métiers qu'on est en train de faire. McKinsey présentait une étude hier à Vivatech. Il y a un taux de transformation des métiers qui a été multiplié par 2 en seulement 5 ans.
On dit, pour cause, parce que les métiers, il y a je ne sais pas combien de métiers qui vont être supprimés.
Ouais, et on dit aussi qu'il y a 80% des métiers dans 2035 qui n'existent pas encore. Ce qu'on voit, c'est que les métiers liés autour des compétences les plus humaines, par exemple dans les hôpitaux, les infirmières, les professeurs, les métiers du care vont se renforcer. A contrario, les métiers qui sont le plus automatisables possible vont eux disparaître. C'est plus 30% d'un côté, moins 30% d'un côté. Donc il y a un enjeu de formation, de reskilling de toutes ces populations pour que demain les hommes, les femmes puissent continuer d'exercer tous leurs talents, mais là où on en aura besoin et là où on sera complémentaire de ce que la machine aura permis de développer.
Est-ce que vous avez l'impression, Florian Andoiteau, quand vous allez voir les entreprises, vous, est-ce que, quelle est la première question qu'elle vous pose? C'est où j'ai un peu peur, comment est-ce que je peux maîtriser? C'est quoi la première question que vous pose? D'abord, est-ce que c'est un DSI ou c'est un DG? À quel niveau vous discutez? C'est intéressant, là aussi, de savoir.
Actuellement, il y a cette discussion aux deux niveaux. Il y a le DG qui se demande quelles sont les efficacités, quels sont les projets, ouais. Et le DSI qui se demande bien comment est-ce qu'il va en faire en sorte de mettre ça en œuvre. Il y a un petit peu cette peur et cette tension. Je pense que la question, c'est pas une question de coût, c'est pas une question de risque en ce moment. C'est beaucoup une question d'opportunité. C'est comment commencer? Quels sont les premiers pas qui vont faire qu'on va avoir du succès dans l'intelligence artificielle, ouais. Et créer vraiment des changements dans la manière de travailler.
Et vous, Julie, lorsque vous rencontrez, je sais pas, des salariés qui vont être impactés ou des DRH qui vont être impactés, il y a d'abord un frein, une peur, parce que en fait, on l'a tous sur notre téléphone portable, sur notre smartphone, mais bon, je m'en sers pas encore beaucoup parce que il y a pas encore ce réflexe.
Ouais, ça fait écho à ce que disait Florian. Le premier cas, c'est identifier les cas d'usage. Ouais. Comment est-ce que dans mon secteur, dans mon métier, ça va me permettre d'être plus productif, de générer des nouveaux produits, de construire des nouveaux produits qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Et un autre sujet qui est comment j'évite aussi les biais. Puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle peut introduire des biais de genre, etc. Et donc comment est-ce que moi, quand je développe mes produits, je forme en amont mes salariés pour m'assurer qu'ils mettent sur le marché des produits à base d'IA qui soient éthiques et responsables.
On a commencé tout à l'heure en commençant les propos d'Elon Musk là, sur le fait, et Florian disait, il y a différentes formes d'intelligence artificielle, parce qu'il parlait Elon Musk parlait de mensonges, de vérité. C'est peut-être aussi la question, parce que est-ce que l'humain, est-ce qu'il doit être complexé par rapport à l'intelligence artificielle?
Non, je pense que c'est une
question que se doivent se poser beaucoup de...
Non, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on doit... Pour éviter d'avoir un clivage dans la société, pour éviter d'avoir une société à deux vitesses, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux basiques de l'intelligence artificielle et pas être exclu de cette révolution en cours qui donne accès à des opportunités qui sont assez incroyables. Mais après, l'humain doit au contraire être fier de ce qu'il sait faire et que la machine ne sait pas faire. C'est son esprit critique, c'est la créativité, c'est l'empathie, c'est la capacité à développer une vision, la capacité à emmener des équipes. Que ça, ChatGPT, Copilot, aussi intelligents qu'ils deviennent, ne sauront pas faire.
Vous êtes d'accord, Florian ?
Oui, je pense qu'il y a 20 ans, on a tous appris en fait à rechercher sur Internet. Et ceux qui ont appris il y a 20 ans à bien chercher sur Google, en fait, avaient un avantage compétitif en tant qu'employé, en tant que dans leur vie par rapport à d'autres, parce qu'on a changé la manière de rechercher de l'information. Mais maintenant, ceux qui apprendront à bien utiliser l'intelligence artificielle au quotidien auront un avantage, et donc il faut tous s'y mettre.
Oui, en même temps, on voit comment... Est-ce que vous avez du mal à recruter des ingénieurs, parce qu'on voit bien que la concurrence, elle est rude, vous, chez Dataiku?
Nous, chez Dataiku, on a...
En fait... Vous payez très bien?
Alors, chez Dataiku, en tout cas, je pense qu'on a une marque et un projet d'entreprise, faire de l'IA et faire la plateforme d'IA qui sert toutes les entreprises depuis Paris, en fait, qui attire beaucoup de monde à Paris.
Cette concurrence, on la sent bien. Vous étiez, je le disais, patronne de Vivatech. Là, on a le sentiment, alors, si Elon Musk a parlé, il y a moins des grandes stars, mais en revanche, ça développe un écosystème de start-up quand même assez impressionnant, qui viennent chercher quoi en fait? Qui viennent se serrer les coudes? Qui viennent chercher des financements? Qui viennent quoi à Vivatech?
Vivatech, ça a toujours été vraiment un très grand rendez-vous pour les start-up. Elles viennent avant tout pour développer leur business, pour trouver des clients. Il y a énormément de grands groupes qui sont présents à Vivatech, de grands groupes du CAC 40, de grands groupes internationaux. Donc c'est avant tout pour trouver des opportunités business. Deuxièmement, c'est pour effectivement lever des fonds. On le sait, l'accès au financement s'est durci ces deux dernières années. Là, cette année, on sent que ça commence à se détendre un petit peu et les investisseurs internationaux notamment reviennent et s'intéressent particulièrement à la France, qui est très dynamique sur le secteur de l'IA. Et troisièmement, c'est pour recruter les talents, puisqu'il y a énormément, mais notamment avec la journée grand public, de jeunes qui ont envie de travailler dans les startups qui viennent à Vivatech. Et on le sait, le recrutement, c'est un des sujets clés pour les startups pour continuer leur développement.
C'est clair. Merci Julie Ranty. Donc Pollen, cofondatrice de Pollen. Merci Florian Andoiteau. Vous, c'est le patron de Dataiku. L'introduction en bourse, c'est pour quand? Quand est-ce que vous revenez sur ce plateau? Ça sera pour quand?
Non, en fait, c'était hier.
Ah voilà, c'est ça. Oui, j'ai manqué
l'information.
Quelque chose.
Non, c'est parce qu'il y avait Elon Musk.
C'est à cause de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai écouté Elon Musk et c'est l'intelligence artificielle qui ne m'a pas donné cette information. C'est pour vous dire s'il y a encore des progrès à faire. L'année prochaine?
L'année prochaine.
Oui. Au début? Premier semestre? On ne saura pas. Merci. Merci en tous les cas d'être venu nous voir tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là nos experts, déjà jusqu'à 19h pour commencer à décortiquer l'actu. Emmanuel Lechypre est avec nous, bonsoir Emmanuel. Bruno Coquet avec nous, bonsoir Bruno, bonsoir. Bienvenue, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, Mathieu Pechberti pour BFM Business. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Edwige Chevrillon qui est avec nous, rebonsoir Edwige.
Et pourquoi nous on n'a pas le droit d'avoir nos diplômes? Là aussi ils sont aussi bons que le sien, non?
Quoi vos diplômes? Allez-y, déballez les diplômes.
Parce qu'Edwige, elle a fait des très belles études.
Non, mais parce que vous présentez.
Oui, mais vous êtes BFM Business. Et voilà. BFM Business, c'est un beau diplôme.
Bon, allez, c'est le meilleur. Passons aux choses sérieuses. Voilà.
Je suis président de Uno Études et Conseils, on peut dire.
Ah, bah, c'est bien.
Moi, j'ai plein de cartes de visite.
Ah, mais il a un CV long comme le bras, Bruno. Ouais. BFM Business, c'est un beau diplôme aussi.
Il faut bien qu'il y ait quelques gens compétents sur ce plateau, quand même.
Absolument. On y travaille, jour après jour. Elon Musk, vous en avez parlé avec vos invités à l'instant, Edwige, bien sûr.
Justement, à propos de beau diplôme, Florian ouais. Doueto, lui, en a. Ouais. C'est le patron donc, de la Taïku. Ça fait 10 ans hein, c'est que cette licorne française bosse sur l'intelligence artificielle. Il connaît bien Elon Musk. Sure. Et en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que... Parce que c'était drôle quand même d'avoir ce focus d'Elon Musk sur qu'est-ce que la vérité, quel que le mensonge. J'ai trouvé ça intéressant sur l'intelligence artificielle. Ce que disait Florian, là, à l'instant, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs intelligences artificielles. Ouais. Et donc, c'est pas qu'elles se répondent d'abord, elles essaient de se rapprocher de l'humanité, de l'humain, donc évidemment il y a toujours... Mais donc il y a des approches très différentes sur l'intelligence artificielle. Donc ça peut être compris comme des mensonges, voire des vérités, mais c'est pas tellement c'est juste parce que les logiques sont différentes.
Alors justement, on va écouter Elon Musk qui... Alors vous avez suivi ça un petit peu avant 18h sur BFM Business, a quand même, en parlant d'intelligence artificielle, pas se priver, envoyer quand même un taquet à ses principaux concurrents, Microsoft OpenAI d'un côté, Google Gemini de l'autre. Écoutez.
Il y a donc j'ai beaucoup de respect pour les grands programmes de AI, mais les deux plus grands sont OpenAI et Gemini. Donc ce qui me préoccupe pour l'instant, même si ça peut paraître futile, mais en fait je crois que c'est vraiment un gros problème, c'est qu'ils ne cherchent pas forcément la vérité. On leur apprend en fait à être politiquement correct. Et pour vous donner un exemple, quand Google Gemini a été lancé, l'une des questions que les gens posaient, c'était qu'est-ce qui est pire, c'est une guerre nucléaire ou alors se tromper de gens sur Kathleen Jenner? Et la réponse était le genre de Kathleen Jenner. Et même elle-même a répondu en disant que se tromper de pronom pour elle, c'était moins pire que la guerre nucléaire. Donc vous voyez.
Bon, cette bonne guerre, quand on est un petit peu en retard sur une technologie, on envoie des taquets à ses concurrents. Hein. Ça, c'est connu, malheureusement, comme technique.
Oui. Et puis c'est Elon Musk hein, quand même. Donc,
c'est Elon Musk.
Passe chaud. Ouais. La question aussi de Maurice Lévy était aussi un peu anglais, on va dire.
Ouais. Emmanuel, comment est-ce que vous regardez ce débat, vous? La vérité, le mensonge, les intelligences artificielles. Elon Musk, un peu opportuniste quand même sur ce coup.
Alors, je me garderais bien de trancher. Moi, je suis toujours méfiant des gens qui prétendent vous livrer l'absolue vérité par rapport à des concurrents qui, eux, ne le feraient pas.
Ce qui est quand même, ils sont en avance sur vous.
Ce qui est quand même fondamental, c'est que, premier point, ce qui me paraît fondamental, c'est qu'on entretienne une concurrence sur effectivement les intelligences artificielles. C'est-à-dire que on voit bien se profiler ce problème d'une intelligence artificielle dont la mécanique intellectuelle finira peut-être par penser à notre place et par choisir à notre place, et donc il est fondamental qu'il y ait une diversité des intelligences artificielles pour pouvoir effectivement offrir diverses possibilités et que tout le monde ne finisse pas par penser finalement comme des intelligences américaines faites aux États-Unis voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et après, moi j'avoue que sur le retard des uns, truc des autres, moi je pense qu'en fait on se focalise beaucoup sur la production, l'invention, la création qui sont les créateurs de l'intelligence artificielle. Moi je pense que c'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui est extrêmement importante. Ouais. Et moi, ce qui me semble important, c'est que les entreprises françaises, les grandes entreprises françaises dans tous les secteurs, deviennent des champions et des championnes de l'intelligence artificielle. Que LVMH devienne un champion de l'IA.
Dans
L'Oréal
catégorie.
Devienne un champion de l'IA, etc.
Mais ils y travaillent là-bas.
Et après, on a, en plus, là où on est extrêmement fort, c'est qu'on a des données d'une qualité bien meilleure que souvent celles qu'ont les Américains, etc., mais qu'on n'a pas le droit d'y toucher et d'y accéder. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Mais franchement, moi, sur cette idée de... Je pense que c'est très important d'entretenir cette concurrence entre les intelligences artificielles.
Bon, puis il y a ce contentieux, on le rappelle, entre Elon Musk, qui était dans la boucle à la création d'OpenAI, il y a une petite dizaine d'années, évidemment, et qui a sorti les couteaux récemment. Bruno Coquet, un mot
sur... Un petit rapport que j'ai beaucoup aimé, d'un think tank catholique qui s'appelle Espérance et Algorithme. J'ai trouvé ça génial. C'est Étienne de Ronquigny. Ils ont sorti un livre blanc sur l'intelligence artificielle. Et franchement, c'est passionnant. Étienne de Ronquigny, livre blanc d'espérance et algorithme, justement.
Espérance et algorithme.
Oui, absolument. Et c'est passionnant. Et sur cette idée qu'effectivement, il est fondamental d'entretenir ces différentes approches et qu'il n'y en ait pas une seule qui l'emporte.
Bruno Coquet, un mot sur Musk.
Moi, je vois qu'il y a des outils. Il y a des outils d'automatisation des tâches. Bon, ça, c'est facile. Après, il y a des outils d'accès à l'information. Donc, effectivement, on a une grande puissance d'accès à l'information avec ces outils d'intelligence artificielle. Après, ils sont plus ou moins performants, de ce que je comprends, dans la mise en forme et dans la sélection de ces informations, donc qui est une étape supplémentaire. Après, l'avenir, au moins à court terme, appartient à ceux qui savent bien les utiliser. Voilà. Oui. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. C'est peut-être un peu simpliste.
Non.
Après, est-ce que ça réfléchit tout seul et ça invente des choses tout seul? J'entends que c'est possible, peut-être, mais on n'en est pas là.
Edwige.
C'est le gros enjeu, effectivement, c'est de voir bien gérer toutes les informations et les utiliser ensuite. On voit bien à Vivatech, les grandes entreprises, elles sont toutes là au rendez-vous, alors évidemment pour rencontrer les start-up, mais c'est aussi parce que pour elles, c'est très intéressant et très important de pouvoir rencontrer ceux qui font genre Dataiku, des logiciels de données qui leur permettent de bien classifier et d'avoir une opérabilité qui soit très, très efficace. Et surtout, c'est tout l'enjeu pour les grandes entreprises.
Manuel.
Je veux dire, un usage bluffant et que moi, auquel je ne pensais pas forcément pour en discuter avec notre camarade Nicolas Bouzou. Moi, je suis économètre de formation la façon dont on peut utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui pour bâtir des modèles. Alors, je dis ça à Bruno qui sera sensible, qui a vu les grands modèles de tous les grands instituts se bâtir. Il fallait des mois, etc., pour bâtir des architectures, l'INSEE, etc. Aujourd'hui, quand vous avez un peu de compétences en économétrie, vous arrivez à avoir un niveau de dialogue avec l'intelligence artificielle, si vous la nourrissez de séries de chiffres, etc., je vous jure que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que des logiciels qu'on payait des fortunes il y a encore quelques années, voir ceux qui étaient bâtis par l'administration, c'est quand même extrêmement bluffant.
Bien, voilà
à quoi
pour
vont servir les économistes, ça aussi, c'est un bon débat.
Absolument, ça fait partie des professions.
Comme aujourd'hui,
le métier d'économiste. métier d'économiste a-t-il de l'avenir? Voilà, on aura toujours besoin des économistes dans un monde idéal. Absolument. Bien, revenons sur des choses bien concrètes. Alors, ça sera demain l'un des événements de la journée, en tout cas l'Assemblée Générale des Actionnaires de Total Energy. Mathieu Pechberti, rebonsoir Mathieu.
Rebonsoir.
Donc, il y a un sujet qui est évidemment en toutes les têtes, c'est celui de savoir si Total pourrait déplacer sa cotation principale de Paris à New York. Sauf que ce soir-là, apparemment, Total est en train de se mettre en mode marche arrière. Je cite ce que dit Patrick Pouyanné au Figaro. Total étudie à ce stade une cotation en actions à New York, mais pas une cotation principale. Là, c'est marche arrière toute, on dirait, Mathieu, visiblement.
Oui, alors en tout cas, il est clairement en train de calmer le jeu, hein, parce qu'il a eu quand même un premier appel à l'ordre du gouvernement de Bruno Le Maire il y a 2-3 semaines environ, et puis surtout un rappel à l'ordre d'Emmanuel Macron public dans l'Express cette semaine, et puis il y a eu quelques indiscrétions ici ou là dans les médias sur le fait que Emmanuel Macron, l'a également un petit peu tiré l'oreille en privé. Sur le fond, lui dit qu'il y a eu une erreur d'interprétation, de compréhension sur le fait que la cotation de Total à New York, il y a un terme anglais autour de ça, avait été mal comprise. Bon, le sujet, c'est qu'il y a quand même une bourde.
C'est clair.
Non, mais il y a une bourde de com de Total, mais ça on en parlera peut-être après. Sur le fond, oui, Total va être coté à New York. Ça sera sûrement annoncé. Alors, en tout cas, la décision sera prise en septembre. On sera sûrement annoncé en septembre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs américains, en tout cas à la bourse de New York, n'achètent que ce qu'on appelle un certificat de dépôt. Donc, ce n'est pas une action. Ou alors, c'est une sous-action, une action qui ne donne droit qu'à des dividendes et qui ne donne pas de droit de vote comme une véritable action. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les investisseurs américains, en tout cas à la bourse de New York, puissent également bénéficier de droits de vote et donc d'acheter véritablement une action Total et que Total bénéficie de la liquidité des investisseurs américains, évidemment, pour que sa valorisation augmente. Ça, si le fond, ça se réalisera. Il y a plein d'entreprises françaises depuis une vingtaine d'années qui ont bénéficié de cette double cotation. On a souvent vu à la grande époque, entre guillemets, de Vivendi sous les Air Messier. Vivendi était coté à la fois à New York et à Paris. Veolia aussi. Bon, et ça n'a d'ailleurs pas que des avantages. Et puis, ce qui avait créé la polémique, c'est de dire, on étudie la cotation principale. Alors, c'est là où il dit qu'il y a une erreur de compréhension. Bon, non, il a mis un peu de temps à le dire quand même. Que la cotation principale serait à New York. Et là, c'est un véritable problème. Parce que si votre cotation principale est à New York et que là, l'essentiel de vos investisseurs devient américain, ça veut dire que Patrick Pouyanné, qui passe déjà beaucoup de temps là-bas, s'installe à New York. Tout le CODIR, le comité exécutif de Total, déménage là-bas. Enfin, c'est un vrai, véritable enjeu. Et c'est là-dessus qu'il fait complètement marche arrière. Il restera à Paris, il y aura une double cotation. Et puis, on en parlera plus lendemain.
Donc, l'incident est clos, Edwige.
Oui, enfin, il l'avait déjà un peu clos, justement, lors d'un forum au Moyen-Orient. Il y a quelques jours, au Qatar, absolument. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il a quand même mis un peu les pieds dans le plat. Alors, bah, toujours très léger, effectivement, Patrick Pouyanné, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est de dire, ben voilà, la valorisation aux États-Unis, elle est nettement supérieure à la valorisation en France. Donc, bah, moi, pour mes actionnaires, ça me pose un problème. Donc, oui. Mais si on raisonne un peu bêtement capitaliste, mais il est quand même payé pour ça et très bien payé, la question, bah, il l'a posée. Il l'a posée, question de valorisation. Après, ça ne peut pas forcément dire qu'on est obligé, si vous êtes coté à New York, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre siège à New York.
Non, c'est sur la cotation principale.
Elle était très claire sur le siège.
Hein. Voilà. Non, elle reste en France.
Il y a eu une incompréhension là-dessus. Voilà. Lui, il dit que c'est une incompréhension.
Pourtant, c'est clair dans ses propos, quand il disait la démonstration par les actionnaires.
La fameuse interview de Bloomberg qu'il avait donnée et qui avait fait naître la polémique, c'était il y a un mois. Donc, il met un peu de temps quand même à rétro-pédaler. Oui, il y a quand même un sujet de, enfin, depuis.
Il y a un sujet de valorisation, non?
Il y a un sujet de communication.
Emmanuel
le Chypre. Sujet de valorisation. Il y avait quand même aussi à un moment où ça discutait pas mal, évidemment.
Le total bashing.
Chaque année, il y avait une sorte de total bashing. Donc on peut pas exclure, quand même, connaissant Patrick Pouyanné, la petite réaction d'humeur, genre arrêtez de m'emmerder, sinon je peux très bien aller voir ailleurs.
C'est bien utile.
Et aller vous faire voir. Mais par contre, non, mais techniquement, ça aurait quand même été très compliqué.
Mais oui, mais moi, j'ai jamais cru à cette histoire.
Donc,
jamais.
Non, ça aurait été énorme, parce que quand même,
non, mais ça
si
a
vous
été
voulez
monté,
avoir
hein.
votre cotation principale.
Oui, oui, non.
Dans le réglementation, dans le SP500, il faut quand même avoir votre siège aux États-Unis.
Il n'a jamais été aussi loin. Il n'a jamais
aurait
été aussi
pu
loin.
Finir par arriver, le siège des actionnaires anglo-saxons majoritaires demain aurait pu décider de.
Il a 40% d'investissement américain.
Non, mais il y a aucune raison que de faire déménager à la fois la cotation principale à New York.
Sur le
sujet de valorisation, on peut aussi s'interroger sur la stratégie de Total Energy, voyez, parce que la question de la valorisation qui avait déjà été posée chez Total Energy il y a 3 ans maintenant, c'était de dire des investisseurs, et Patrick Pouyanné l'avait dit d'ailleurs, des investisseurs avaient demandé à Total de scinder ses activités renouvelables pour coter séparément. Donc il y aurait eu entre guillemets un Total pétrole et un Total green pour mieux valoriser les renouvelables. Et lui, son argument, Patrick Pouyanné, c'était de dire, mais moi, je vais tellement verdir Total que la survalorisation des activités renouvelables va prendre le pas sur le pétrole, etc. Or, c'est pas du tout ce qui se passe, même si la valorisation est très élevée. Hein.
Bruno Coquet.
Je comprends qu'il est plus rentable que les autres sur ses activités vertes.
Mmh. Oui.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un sujet aussi sur le financement. Puisque, apparemment, il fait valoir aussi qu'il y a des... Comme les banques veulent verdir leur bilan, si je fais très court... Eh bien, du coup, il dit qu'il a un accès plus compliqué à des financements ici. Ce
n'est
pas forcément le cas aux États-Unis.
Aux États-Unis, c'est pas tout la même chose.
Commencer à faire marche arrière par rapport à cette. Cette doxa.
Oui. Mais après,
mais pas les banques françaises.
Oui, mais après, c'est... si on regarde la cas général sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise française dans un monde mondialisé. On n'est plus sous le général de Gaulle, il y avait la famille Bouygues, Francis Bouygues et tout ça. Bon. Donc le point, il y a quand même une question à se poser. C'est-à-dire, en fait, ce que lui dit le président de la République, c'est on vous a donné des coups de pouce diplomatiques, voire on vous a donné de l'argent. Pour, c'est pas vrai pour Total, mais pour d'autres entreprises stratégiques, c'est probablement vrai. Et donc, du coup, il y a peut-être quand même quelque chose à réfléchir sur qu'est-ce que c'est les aides publiques qu'on apporte aux entreprises, pourquoi c'est pas une participation. Alors, l'État actionnaire, après, on peut discuter, est-il efficace ou non, mais quand même, pourquoi c'est une aide sans retour de manière générale, pourquoi il n'y a pas de golden share, pourquoi il y a. Tous ces mécanismes de contrôle que n'ont pas les États-Unis. Le problème, puisque eux, leurs actionnaires sont...
Parce que c'est une entreprise privée qui a pris le contrôle d'Elf, qui était une entreprise publique.
Oui, mais
si on fait un peu l'histoire économique.
Mais du point de vue du gouvernement, en fait, ce que Emmanuel Macron lui fait un reproche qui ferait à une entreprise privée qui est libre de faire ce qu'elle a envie, alors qu'en termes de politique publique, il ne dit rien. Le président, il pourrait dire, voilà, donc on risque de voir partir toutes nos pépites, donc qu'est-ce qu'on fait? Il pourrait avoir une stratégie là-dessus, et moi je l'entends pas, cette stratégie.
Au passage, puisque vous parlez d'Emmanuel Macron, on voulait dire un mot, Mathieu, quand même, sur la relation Emmanuel Macron et Patrick Pouyanné, qui est assez complexe depuis certaines années.
Oui, je trouvais ça intéressant, parce qu'effectivement, il y a eu quand même une petite remise en ordre des choses d'Emmanuel Macron, encore une fois, dans la grande interview qu'il a donnée à l'Express cette semaine. Patrick Pouyanné, Emmanuel Macron, ça a toujours été compliqué. Vous savez, quand Emmanuel Macron a été nommé ministre de l'économie, donc il y a quasiment 10 ans maintenant, c'était en 2014, bon, Patrick Pouyanné, il a un peu pris de haut au début, c'était le petit jeuneau qui avait 36-37 ans, qui débarquait de la banque Rothschild, inspecteur des finances, puis bon, il avait un peu fait comprendre que lui ne parlait directement au président de la République. Et puis après, il y a eu la campagne présidentielle en 2016-2017 où Patrick Pouyanné, qui était membre du cabinet de François Fillon quand il était ministre des Télécoms dans les années 90, soutenait en fait en coulisses François Fillon. Évidemment contre Emmanuel Macron, dont il pensait qu'il ne gagnerait jamais l'élection présidentielle. Et à l'époque, effectivement, François Fillon était plutôt bien placé au début de l'année 2017, avant l'affaire Fillon. Et donc, quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée, ça a quand même frotté sévèrement et assez durement. Et donc, ça a toujours été assez compliqué, la relation entre Patrick Pouyanné et Emmanuel Macron. Et on le voit encore aujourd'hui, quand il y a des sujets politiques sur la table, ça
frotte. Pas complètement cicatrisé, apparemment.
Oui, ce qu'il veut dire, néanmoins, c'est qu'en fait, Patrick Pouyanné, il connaît extrêmement bien, et pour cause, tout le Moyen-Orient. Et donc, il est une sorte de ministre des Affaires étrangères de la France pour toute cette zone-là. Parce qu'il est très, très puissant là-bas. Quand il y a quelque chose à faire dire au Qatar, il est un très bon relais. Donc, les deux sont obligés de communiquer l'un vers l'autre. Donc,
chacun dépend de l'autre, en fait.
Chacun dépend de l'autre.
Mais Total aussi, il ne faut quand même pas se leurrer. Enfin, si Total gagne aussi énormément de contrats sur des champs gaziers, pétroliers, dans certains pays, je pense notamment au Moyen-Orient, c'est évidemment parce que c'est une grande entreprise, évidemment parce que Patrick Pouyanné les connaît, et mais c'est aussi parce que Total est français. Il y a quand même beaucoup de pays au Moyen-Orient qui confient des contrats à Total, parce que c'est pas Chevron ni Exxon.
Ouais.
Donc, faut quand même pas l'oublier. Et c'est quand même ça que Emmanuel Macron rappelle à Total quand il parle de l'aide que la France lui donne sur les marchés à l'export. Il est peut-être moins bien valorisé que Chevron ou Exxon, mais...
Mais il est français. Conclusion.
Il arrive à passer quand même à louvoyer entre peut-être les crises géopolitiques américano-chinoises.
Ces messieurs sont obligés de s'entendre quelque part. Voilà pour Total Energy. 3 minutes pour dire un mot rapidement de ce taquet. C'est quand même un taquet qu'a mis le FMI aujourd'hui à la France. Vous savez, le FMI dit on ne croit pas la France quand elle nous dit qu'en 2027, elle ramènera ses déficits sous la fameuse barre des 3%. Notamment parce que les 40 milliards d'euros d'économies annoncés sur 2024 et 2025 ne sont pas assez documentés. Donc pour l'instant, le FMI dit, nous, c'est comme Saint-Thomas. On ne vous croit pas. Est-ce que le FMI a raison de prendre tout ça avec des pincettes, Bruno, pour vous?
Oui, il a raison de ne pas croire la France. Enfin, on sait bien que ça ne rentre pas dans la boîte, qu'on va le voir après les élections européennes, qu'on va, selon l'expression que j'emploie tout le temps, se faire engueuler à Bruxelles. Donc on va avoir notre procédure pour déficit excessif. Enfin, personne ne peut croire à la fois la prévision de croissance, l'articulation budgétaire qu'il y a autour, et le fait que... En gros, il ne va pas se passer grand-chose dans le prochain PLF. Ce qui est annoncé aujourd'hui n'est pas ce qui peut se passer.
Voilà. Bon, Emmanuel, vous êtes d'accord avec le FMI? Wait and see.
Y a deux très bonnes raisons de penser que le FMI a raison d'être prudent. C'est d'abord le passé. C'est-à-dire que chaque fois que la France a promis ce fameux redressement de sa trajectoire des finances publiques, ça n'a jamais été respecté et jamais été tenu. Et comme à chaque fois, ça a été promis à peu près dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, en faisant de la part du gouvernement à peu près le même type de promesses, il n'y a pas beaucoup de raisons de penser que effectivement ça va s'améliorer. Donc oui, mais après c'est toujours la même chose. And so what? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est pour ça que les marchés vont d'un seul coup décréter qu'ils veulent plus de dette française? Ça paraît aujourd'hui assez peu probable.
Ça paraît peu probable. Bah, le 10 ans se tient très bien. Il a 3%
pour financer notre dette. Après, moi, je pense que on sous-estime la dégradation de la crédibilité de la France à Bruxelles. Et que ça va quand même poser problème au cours du prochain mandat européen, au cours du prochain mandat de ce Parlement, alors qu'il y a quand même des choses extrêmement importantes à négocier. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Plus pour l'Europe que pour la France elle-même.
Edwige.
Non, juste un point pour rebondir sur ce que dit Emmanuel. C'est-à-dire que je trouve que ce qui devient, au-delà de la bataille de chiffres, est-ce que c'est faisable, pas faisable, souvent la France quand même a réussi des choses, tout le monde disait que c'était pas possible. Mais je trouve que ce petit tam-tam, cette petite musique sur, qui n'arrête pas de remettre en cause les chiffres quand même de la France, du ministère de l'économie et de Bercy.
Bruxelles a dit la même chose la semaine dernière.
Oui, mais oui, c'est pour ça que je dis, cette petite musique, je trouve que c'est pas très bon pour l'image de la France. Voilà.
Oui, mais on sort quelque chose qui n'est pas crédible. Enfin, et dans le haut du consensus, on va dire gentiment comme ça, et ça ne marche pas. Mais au fond, moi, je pense que d'abord, il ne faut pas se fier à on veut ou pas de la dette française. Le choc sur le spread de taux, c'est toujours un choc non anticipé. Donc c'est ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que moi, ça ne tient qu'à un fil. Le fil étant, on fait rentrer l'impôt. Le fermier général, pour le moment, est très efficace jusqu'au moment où ça va râler. Mais la confiance dans la France, c'est ça, c'est au fond, on peut faire rentrer l'impôt. Si ça disparaît, on n'a aucune confiance sur la France dans contrôler les dépenses.
Pour l'instant, on fait rentrer l'impôt.
C'est les recettes.
Mais sachant qu'en plus, Emmanuel Macron, il est plus royaliste que le roi, parce qu'il refuse les solutions faciles, qui rapportent beaucoup et qui sont pas si douloureuses que ça.
Lesquelles?
Bah, ils refusent, par exemple, cette année blanche.
Sur les exonérations sur l'indexation des retraites et des prestations des sociales, etc. On en parlait.
Ils visent le plein emploi.
C'est quand même 20 milliards, c'est pas négligeable. Ceux qui devraient faire l'effort sont ceux qui ont quand même été pas mal gâtés ces dernières années. Donc,
mettez pas tout le monde dans la rue avec ça.
C'est pas une solution de long terme.
Non, c'est un one shot.
Ça fait une belle poire.
Ils refusent l'apprentissage, on le sait.
Et ils refusent. Ah non, mais voilà. Non, mais c'est ça.
C'est 8 milliards.
On a déjà du mal à trouver des économies et ils refusent l'évidence. Hein, regardez la note de Bruno sur l'apprentissage. On pourrait gratter 8 milliards sans nuire aucunement à l'efficacité du dispositif.
Une question de volonté politique, comme toujours. C'est 8 ou 12
j'ai bien lu ta note. Ouais.
Et il y aura une mise à jour bientôt.
Ah bah alors, encore des milliards supplémentaires. Alors.
Là, dans le courant.
Allez, c'est terminé, 18h57 pour cette première partie des experts. Merci à tous. Emmanuel Lechypre, merci. Mathieu Pechberti, merci. Bruno Coquet va revenir dans un instant, jusqu'à 19h15-20h. Edwige à lundi.
Absolument.
Pour de nouvelles aventures, évidemment. À 18h10, 18h57, le journal dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.